Vous écoutez RTL.
RTL, 9h01.
RTL Matin.
Laissez-vous tenter.
Avec Yves Calvi.
Finale demain à Lisbonne du concours de l'Eurovision. Notre envoyé spécial au Portugal, Laurent Marsic, nous racontera dans un instant les coulisses, les ultimes répétitions et les chances du duo Madame Monsieur qui représentera la France. À Cannes, entrée en compétition du deuxième film français, Le Livre d'images de Jean-Luc Godard et la réalité virtuelle en vedette au marché du film. Nous rejoindrons sur la croisette Stéphane Boutsock et Michael Lefebvre. Après 3 ans de restauration, le Hameau de la Reine à Versailles ouvre pour la première fois ses portes au public ce week-end. Sophie Orange nous emmènera dans les pas de Marie-Antoinette. Et puis avec Isabelle Morini-Boss, nous reviendrons sur l'arrêt du tournage de Koh-Lanta et sur votre programme de la soirée. Imitateurs, des voix pas comme les autres, un documentaire inédit de France 3 consacré aux imitateurs d'hier et d'aujourd'hui.
RTL Matin.
Laissez-vous tenter.
Mais sans plus tarder, nous partons bien évidemment à Lisbonne, au Portugal. Nous sommes à J-1 avant la finale de l'Eurovision. Bonjour Laurent Marsic.
Bonjour, bonjour tout le monde.
Vous êtes envoyé spécial d'RTL à l'Eurovision, diffusé samedi sur France 2. Un duo pour nous représenter, Madame Monsieur, et leur chanson, Merci. Comment se portent les représentants français dans la toute dernière ligne droite, Laurent ?
Ah bah ce matin, le moral est au beau fixe, parce que l'info de la nuit, je vous la donne, c'est l'ordre de passage pour la finale. On redoutait de passer en premier pour essuyer les plâtres, ou dans la dernière partie. Eh bien, Madame Monsieur passera en 13e position, c'est très bon pour nous. Le gagnant l'année dernière au Portugal, ici, est passé en 11e position. Donc, deuxième partie de l'émission, c'est une très bonne place. On leur souhaite que cette baraka dure jusqu'à demain soir, la finale, mais aussi ce soir sur la scène de l'Arena de Lisbonne. Je vous dis ça parce que ce soir, on va jouer la finale comme pour de vrai. Et derrière le poste, ce sont les jurys professionnels dans chaque pays qui attribueront leur note, qui comptera pour partie dans le vote final demain, avec le vote du public. En tout cas, il suffit de se promener dans la rue avec le duo Madame Monsieur pour mesurer l'engouement autour de leur chanson. Pas un pas sans une bande d'autographe, un selfie ou un petit mot gentil.
En tout cas, je voulais juste vous dire en Belgique qu'on vous adore.
Ah, bah c'est gentil. Nous, on aime bien les Belges. C'est un super public.
Merci beaucoup.
Merci. Je peux vite prendre une photo.
Merci, merci.
Là, on a gagné les Belges qui, eux, ont été éliminés. La pression monte pour notre duo et en même temps, ils restent assez sereins, Émilie et Jean-Carles.
Oui, bien sûr qu'elle monte. Mais elle monte comme il faut. Je pense que si on n'en avait pas, ce serait bizarre aussi. C'est quand même un truc de fou de jouer devant 200 millions de personnes du monde entier qui regardent la même chose au même moment. C'est hallucinant. Donc, bien sûr qu'il y a une pression. D'autant plus que comme c'est les Français qui ont choisi la chanson, on a une responsabilité vis-à-vis d'eux. Mais ça nous donne aussi confiance parce que justement, on est légitime à aller représenter la France.
Notre engagement, il est là, essayer de rendre les gens heureux et de leur redonner confiance et d'être dans le positivisme, de se dire que c'est possible, que voilà, que tous ensemble on peut y arriver et que il faut y croire. Voilà, c'est plutôt ça notre engagement.
Chaque jour ou presque, ils répètent et en coulisses, on cale les mouvements de caméra. C'est long et parfois fastidieux pour le chef de la délégation française, Eduardo Grassi. Pas toujours très content d'ailleurs de la façon dont les Portugais filment notre couple de Français.
C'est à un moment donné, faut leur dire.
C'est pas assez dynamique la fin.
C'est pas dynamique. Des fois, c'est trop long retiré comme ça.
Oui, on ce plan-là, long, il est trop long.
Sur le refrain, le premier refrain.
La spider, elle est pas bonne, quoi. À un moment, on ne peut pas continuer à demander les mêmes choses over and over. Il faut vraiment qu'ils arrivent à faire un travail propre sans problème. C'est vrai que j'ai l'impression vraiment que ça a été délaissé, quoi.
Bon, Laurent, est-ce qu'on peut se hasarder à faire un pronostic ?
Bien sûr, vous pouvez. Alors ici, ils oscillent entre la deuxième et la quatrième place chez les fans, comme chez les bookmakers, je regardais ce matin. Le danger peut venir de Chypre, donnée favorite, voire gagnante. Alors il y a toujours aussi l'israélienne en embuscade, Neta.
Oui.
Une sorte de mélange entre oui. Björk et Bezdito. Neta, c'est son prénom. Elle a une chanson où elle imite la poule. Mais le clip était génial. Sur scène, franchement, c'est plutôt décevant. Ça a été un peu la douche froide pour tout le monde. Mais bon, elle est toujours classée en tête. Le danger vient de partout, en fait, cette année à l'Eurovision, parce qu'on n'arrive pas à trouver qui se détache vraiment du lot. Il y a la Lituanie, il y a la Norvège, la Suède qui nous suivent de près. En tout cas, Christophe Willem, lui, qui commentera pour France 2 samedi soir aux côtés de Stéphane Bern, est plutôt impressionné par le niveau.
Au niveau technique de voix, je suis très impressionné du niveau. J'étais un peu resté sur le côté caricatural de l'Eurovision, un peu folklorique et tout. Et en fait, quand même, faut quand même le reconnaître, il y a quand même un niveau vocal très impressionnant. Et on a affaire à des athlètes du chant. Et je trouve aussi que dans l'écriture des titres, à part certains titres qui sont vraiment, on va dire, les wagons de tête de ce qui caractérise l'Eurovision, Il y a quand même des morceaux qui sont extrêmement pointus en termes d'écriture, en termes de composition et même d'arrangement, qui fait que, honnêtement, pour le spectacle que ça va offrir, je trouve qu'il y a un vrai bon moment à vivre en regardant, en écoutant l'Eurovision cette année.
Et le vrai bon moment, ce sont aussi les fans français qui vont le vivre dans la salle. Ils sont plus de 200 à être présents ici. On a rarement vu ça, hein, l'Eurovision. Ils ont tous débarqué à l'hôtel hier de la délégation pour une séance de photos et dédicaces.
Je vous en prie, par ici. Et vous sortez ensuite par là. Les ministres sont ravis de faire les bisous avec vous, mais à cause du maquillage, elle ne peut pas.
Attends, on y va après.
Le cœur y est, d'accord ?
Voilà, le cœur y est. Et puis, à côté des rencontres de fans, il y a la mobilisation des ambassadeurs de France dans le monde entier. Ils ont pour consigne de sensibiliser les Français de l'étranger parce qu'eux peuvent voter. Réception en grande pompe, tiens, hier soir à l'ambassade de France au Portugal.
Merci beaucoup, monsieur l'ambassadeur, de nous recevoir. On est vraiment très heureux d'être ici, un peu étonnés. En fait, on va d'étonnement en étonnement depuis fin janvier. Et on va vous chanter merci maintenant avec vous, les enfants, si vous voulez bien.
Voilà, il y avait une chorale effectivement d'enfants, d'expatriés, et ils ont chanté ce fameux titre Merci.
Merci, 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 merci.
Émilie et Jean-Carl, tous deux blancs vêtus, vous savez que c'est Jean-Paul Gaultier hein, qui les habille, alors ils seront tout en noir sur la scène, il sera là aussi pour assister à la finale. C'est un grand, grand fan de l'Eurovision, Jean-Paul Gaultier.
C'est quelque chose de très joyeux, en fin de compte. Très joyeux, pourquoi ? Parce que c'est, d'une part, une fête de la musique, en quelque sorte, de musiques différentes. Et la preuve, c'est que nous, eh ben, je trouve qu'on présente une chanson formidable. Et très fier de, en partie, la défendre avec mes vêtements, avec eux.
Voilà, tout est en place maintenant pour la dernière ligne droite. Allez, un petit 100 mètres pour briser la malédiction vieille de 41 ans.
La finale de l'Eurovision à suivre demain soir sur France 2 avec aux commentaires Stéphane Bern et Christophe Willem. Merci beaucoup Laurent Marsic.
Merci Laurent.
Merci. Merci. Les audiences avec Médiamétrie, Isabelle Morini-Bosque, celle de la télévision.
Merci beaucoup. Dans Merci. Astérix aux Jeux Olympiques, 4 100 000 téléspectateurs et 20% du public. Affaire conclue sur la 2, dont c'était la première sur les enchères d'objets particuliers. 2 500 000, c'est ni un naufrage, ni un succès spectaculaire, 12% du public. C'est exactement quasiment le même score que la série Scorpion sur M6. Et côté TNT, c'est TMC avec, logique, La Guerre des Étoiles qui est en tête, 50 000 téléspectateurs.
Nous revenons sur l'actualité télévisée marquée notamment par l'affaire Koh-Lanta en fin d'émission avec vous Isabelle Morini-Bosque. A tout de suite, on va partir sur la croisette où la France est de retour avec Jean-Luc Godard. Enfin, la France et la Suisse, en tout cas on va dire la francophonie si vous préférez. Voilà.
RTL Matin,
laissez-vous tenter
avec Yves Calvi. La 71e édition du Festival de Cannes
sur RTL.
Oh là, c'est le bimbo, je vous prie de m'excuser. Je crois que je suis un peu...
Vous êtes raccord avec
mon je suis raccord, là, voilà, très bien. Alors, notre détour quotidien par la croisette et le 71e Festival de Cannes. J'ai beaucoup de mal à dire 71 cette année. Je salue Stéphane Boutsock et Michael Lefebvre, nos deux festivaliers du jour. Bonjour messieurs.
Bonjour à tous.
Au programme de ce vendredi, Stéphane, un événement, la sélection en compétition officielle cet après-midi du Livre d'Images. C'est le dernier film de Jean-Luc Godard. Question toute simple, est-ce que le réalisateur de Pierrot le Fou et À bout de souffle sera là ?
Alors pour l'instant, je dis bien pour l'instant, à 99%, je vous réponds non, mais une ultime surprise n'est pas à exclure, c'est ce que laissait entendre son producteur hier soir. En 2014, la dernière fois qu'il était sélectionné, on lui avait demandé pourquoi il ne venait pas monter les marches, et il avait répondu en substance, parce que je l'ai déjà fait, ce qui est un argument assez imparable. Absolument. Après ce 88 ans, le franco-suisse ne sort plus guère de son refuge de rôle sur les rives du lac Léman.
A-t-on une idée de ce que raconte le Livre d'Images, son nouveau film ?
Alors, je vais vous faire écouter le début de la très mystérieuse bande-annonce qui a été dévoilée il y a quelques semaines. Voilà, des voix.
J'ai entendu sa voix, lui, non ?
Oui, il y a de la musique, il y a du mille aussi, comme on dit, cette espèce de petit sifflement du début. Il y a des mots ensuite qui apparaissent sur l'écran, tableau, texte, cinéma. Ce qu'on sait, c'est que le Livre d'Images se veut, et j'ouvre des guillemets parce que c'est une citation, une réflexion sur le monde arabe en 2017 à travers le documentaire et la fiction. Une chose est sûre, faut pas s'attendre à un scénario, une mise en scène, ni même un montage classique. Godard y a depuis longtemps renoncé, affirmant que le cinéma était mort et répétant sa détestation du divertissement divertissement populaire. Cela dit qu'il se rassure, à part ses ultimes inconditionnels, le grand public traite depuis des lustres maintenant avec une indifférence totale les essais expérimentaux qu'il daigne offrir au monde. Mais ici, à Cannes, certains y sont sensibles. En 2014, son film Adieu au langage, tourné en 3D avec un chien et une chaise, notamment, je m'en rappelle, avait reçu le prix du jury. Thierry Frémaux, délégué général du festival, n'a pas hésité longtemps, en tout cas, à retenir le nouvel opus du cinéaste. Il explique ce que lui inspire la présence de Godard en compétition.
Ça m'inspire d'abord de dire le plaisir que j'ai eu, moi, à le voir beaucoup ces derniers mois, et le plaisir que j'ai de non seulement montrer son film, mais lui, de le voir intact comme créateur. Oui, on est 50 ans après son tweet, je suis pas sûr que, comme c'est un homme qui regarde devant lui, que ça soit forcément quelque chose auquel lui-même aimerait faire référence. Et évidemment, on n'y a absolument pas pensé. Il faut pas juger une époque avec les lunettes d'une autre époque. On est en 2018 et Jean-Luc Godard est là. Et ce cinéma-là, qui a gagné un prix il y a 3 ans, eh bien, revient à Cannes et on est très heureux de ça. Je l'ai trouvé en pleine forme.
Alors, petit pied de nez, peut-être pas si innocent que cela. Il y a en effet 50 ans tout juste, Jean-Luc Godard, François Truffaut, Claude Lelouch, Louis Malle et quelques autres faisaient annuler le festival. C'était en pleine révolte étudiante et ouvrière de mai 68.
Le livre d'images de Jean-Luc Godard en compétition donc aujourd'hui, Stéphane. Quel est le reste du programme de ce vendredi et de votre week-end, hein, cannois?
Alors, deuxième film en compétition du jour, Les Éternels du chinois Ya Xiangke, une histoire de gang de la pègre dirigée par une femme, ça promet, vu les premières images que l'on a pu apercevoir. Les femmes qui seront à honneur d'ici dimanche soir, puisque Marion Cotillard et Isabelle Adjani sont annoncées dans les heures qui viennent, mais également beau programme, Christopher Nolan et l'équipe du film Le Grand Bain de Gilles Lelouch vont amener du glamour et du brillant à un festival qui s'est un petit peu assoupi, autant vous le dire, depuis mercredi. Et puis tiens, je vous signale au passage l'excellent démarrage, on en parlait mardi, du film d'ouverture Everybody Knows d'Asghar Farhadi avec Penelope Cruz et Javier Bardem. 77 000 entrées mardi soir et mercredi pour sa première journée sur nos écrans. C'est plus du double du passé avec Bérénice Bejo qui était ici en 2014, qui avait été primée et qui avait fini autour du million de spectateurs.
Merci beaucoup Stéphane, vous nous ferez évidemment le bilan de tout cela lundi matin. Mickaël Lefebvre, bonjour.
Bonjour Yves, bonjour à tous.
Découvrons à présent en votre compagnie la vedette du marché du film qui se tient en marge de la compétition, c'est la réalité virtuelle. Hein. Elle est tendance, elle est absolument partout.
Oui, et l'an dernier j'avais déjà eu la chance de vivre la spectaculaire expérience du petit film d'Alejandro González Iñárritu ici à Cannes, entièrement réalisé en réalité virtuelle. Eh bien, cette année, figurez-vous que 150 films tournés en VR pour Virtual Reality sont projetés pendant la quinzaine, alors il y en a pour tous les goûts. Vous pouvez aussi bien incarner l'astronaute Thomas Pesquet lors de sa mission sur la Station Spatiale Internationale. Vous pouvez également vous mêler à des animaux sauvages dans une jungle tropicale sans quitter la plage du Majestic. Et puis, il y a des projets encore plus originaux et inédits. C'est le cas, par exemple, d'un film produit par la société DV, pionnière en matière de réalité virtuelle, où casque sur la tête, vous allez en fait entrer sur le plateau d'un film d'épouvante en plein tournage, mis en scène par un réalisateur inspiré du personnage d'Ed Wood créé par Tim Burton. Vous donnez la réplique à Bela Lugosi, l'interprète culte de Dracula dans les années 30. C'est un film qui mêle en fait la motion capture qui est utilisée par exemple pour reproduire virtuellement Gollum dans Le Seigneur des Anneaux à l'aide de plusieurs capteurs sur un comédien et donc la réalité virtuelle. Nicolas Cor, le producteur du film, nous explique en fait tout ça.
Ça mêle la réalité virtuelle et le théâtre aussi, le théâtre immersif. Le but est d'allier le réel au virtuel. Les deux technologies, donc la motion capture et la réalité virtuelle. Nous avons reproduit des décors photoréalistes avec Bela Lugosi. Donc on met un casque, on est dans la 360, on est dans des scènes de Ed Wood avec Bela Lugosi et on se retrouve transporté dans l'histoire à l'époque où il tournait son film et notamment cette scène de Dracula.
Et alors, c'est impressionnant le résultat?
Oui, malgré le fait que ça ne dure pas très longtemps, 2-3 minutes à peine, on entrevoit déjà toutes les possibilités qu'offre la réalité virtuelle au cinéma. Aussi bien pour des films en 360 degrés, où le spectateur est immergé dans l'action, mais reste un simple spectateur, mais aussi pour des productions où vous deviendrez le héros du film en interagissant avec l'histoire et les comédiens. On en est au tout début, donc beaucoup de choses restent encore à développer, comme par exemple des casques plus légers et sans fil. Mais certains acteurs du monde de la réalité virtuelle m'ont dit se sentir comme les frères Lumière au moment de la création du cinéma. C'est dire l'importance que va prendre cette technologie dans les années futures.
Merci beaucoup Mickaël, ainsi que toute l'équipe sur La Croisette. Notez que dimanche à 13h, Anthony Martin et Stéphane Boutsock proposeront un Laissez-vous tenter le week-end spécial Festival de Cannes. On les retrouvera avec grand plaisir. Dans un instant, on va faire une visite absolument merveilleuse dans le domaine de Marie-Antoinette au château de Versailles. A tout de suite, c'est le hameau de la Reine. Nous serons avec Sophie Orange.
RTL Matin.
Laissez-vous tenter.
Avec Yves Calvi.
9h18, merci d'écouter RTL. Bonjour Sophie Orange.
Bonjour à tous.
Vous nous proposez ce matin une balade charmante et historique à tous les sens du terme au château de Versailles, puisque pour la première fois, les visiteurs pourront découvrir à partir de demain l'intérieur. Je dis bien l'intérieur du hameau de la Reine, c'est le domaine de Marie-Antoinette.
Jamais le public n'avait pu entrer dans ces maisons depuis plus de 2 siècles. C'est donc un événement. Nous sommes loin du château. Ces chaumières d'un étage de style normand ont été construites autour d'un petit lac entre 1783 et 1786 par et pour Marie-Antoinette. C'est absolument ravissant, bucolique. La restauration était devenue obligatoire. L'humidité mangeait les sols et les murs.
Nous nous trouvons donc devant la maison de la Reine.
Et c'est Jérémy Benoît, conservateur à Versailles, qui tient les clés dans la main.
Nous allons rentrer, mais nous allons mettre des chaussons pour protéger les sols. Suivez-moi, je vais ouvrir les portes de la salle à manger de la maison de la Reine.
Une salle à manger plutôt sobre, on nous entend marcher derrière avec les chaussons. Oui. Évidemment, il ne faut pas abîmer les sols. Les murs sont café au lait, l'œil est tout de suite attiré par des quinquets bleus. Vous savez ce que c'est ?
Non.
Des petites lampes à huile, des lampes à courant d'air très spectaculaires alimentées par de l'huile de baleine. Chaque détail est une merveille, les rideaux, les moulures, les chaises avec un dossier en forme de lyre. Et encore plus impressionnant, le salon du premier étage avec de somptueuses soieries jaunes au mur.
C'est une pièce totalement inattendue pour le public. On le savait, si vous voulez, par les textes, qu'il y avait une très grande rupture entre les extérieurs rustiques et l'intérieur qui se voulait absolument palatial, si j'ose dire. Mais là, les couleurs jaunes boutons d'or sont absolument étonnantes, complétées par les rideaux de soie bordés d'un galon violet et or, de même que les sièges sont de même couleur, mais en velours de soie.
Mais dites-moi cette musique.
Oh, c'est un petit clin d'œil pour rester dans l'ambiance. L'opéra le plus célèbre de Christophe Gluck, Orphée Eurydice, qui est beaucoup joué à Versailles.
Alors, tout ce que nous voyons et entendons grâce à vous, ces meubles, ces rideaux, ces tissus, ils sont d'origine, ils datent de Marie-Antoinette.
Non, impossible, car quasiment tout a disparu, a été dispersé. La Révolution est passée par là, bien sûr. Le parti pris a donc été de remeubler le hameau de la Reine comme si nous étions en 1810, date à laquelle l'impératrice Marie-Louise, la seconde femme de Napoléon, petite-nièce de la Reine, s'est installée ici. Un travail colossal pour retrouver une table de tric-trac, c'est un jeu d'argent, un guéridon, des fauteuils, une commode, des vases, des chaises, et ensuite les rénover, ça c'est vraiment le travail des artisans d'art. Le plus émouvant, je trouve, c'est ce lit empire dans lequel dormait Marie-Louise. Elle a été repeint en imitation de bois de citronnier.
Ça doit être sublime.
L'ambiance, l'atmosphère des lieux est vraiment intime, touchante. Ce hameau de la Reine, c'est vraiment Marie-Antoinette qui l'a voulu, c'est ça qu'il faut bien comprendre. Le roi Louis XVI lui avait donné le domaine, une révolution, avant la Révolution. C'est la première fois que la Reine devenait propriétaire. Or, en fait, elle n'avait a priori rien le droit de posséder. Et en vrai maître d'œuvre, presque chef d'entreprise, j'ai envie de dire, elle a fait appel aux meilleurs architectes, paysagistes, botanistes pour construire ce hameau. Il y avait une grange, un boudoir, un colombier, un moulin, une laiterie, une maison des gardes, un réchauffoir, c'est-à-dire la cuisine. Et donc, la maison de la Reine, il reste à peu près 80% de ses édifices. On va poursuivre la visite de la maison de la Reine, si vous le voulez bien. Rappelez-vous, on était dans le grand salon, aux soirées merveilleuses, pour rejoindre cette fois-ci la maison du billard. On est donc sur une galerie en bois à l'extérieur entre les deux maisons. Passerelle ravissante ornée de pots de fleurs sur laquelle on retrouve notre guide, Jérémy Benoît.
La vue est absolument spectaculaire, totalement inattendue. Je crois très sincèrement que c'est l'un des lieux les plus magiques de Versailles. Le raffinement et l'élégance que l'on voit ici dépasse à mon sens même les petits appartements privés de la Reine à Versailles.
Et au loin, la tour Marlborough qui surplombe la pêcherie, c'est là où les barques venaient accoster. La pêche au 18e était une grande occupation. Imaginez que la Reine avait fait venir 17 brochets et plus de 2000 carpes dans le lac, il y avait de la matière. Les poissons qui nagent aujourd'hui ont sans doute peut-être du sang royal.
Alors, sait-on ce que faisait exactement la Reine dans son hameau ?
Elle se promenait, elle recevait des amis qui jouaient au billard, au tric-trac. Elle déjeunait. Connaissez-vous son dessert préféré ?
Non.
Petite confidence. Les fraises à la crème, fabriquées dans la laiterie du hameau. Elle raffolait de fromage à la mode à l'époque. La grange, aujourd'hui détruite, servait de salle de bal, mais les réceptions étaient finalement plus sobres.
On sait simplement qu'il y a eu quand même une fête où la Reine avait tonné des tables et elle servait des limonades aux invités avec sa petite robe de mousseline, vraisemblablement le chapeau de paille. Bon, ça c'était une fantaisie de châtelaine, puisque ici, la reine propriétaire des lieux n'était pas reine de France. Il n'y avait pas de protocole d'une certaine façon. Elle était une simple châtelaine qui invitait ses amis.
Et on ne peut pas parler du hameau de la reine sans parler de la ferme juste à côté, car Marie-Antoinette tenait à ce que ses enfants, notamment le dauphin, découvrent le travail. Deschamps rencontre des vrais paysans, si j'ose dire. On est en plein rousseauisme, hein, des idées de Jean-Jacques Rousseau pour qui la nature était belle et généreuse. Des vaches étaient venues spécialement de Suisse. Magnifique. Il y avait des chèvres et des arbres fruitiers. Pour Jean Descartes, qui publie Le hameau de la reine, passionnant ouvrage chez Flammarion, Marie-Antoinette était ici chez elle.
Marie-Antoinette ne joue pas à la fermière, comme on l'a dit souvent, ni à la paysanne, non. C'est la reine de France qui prévoit un domaine pour se reposer, loin des rigueurs de la cour. C'est un domaine où elle se retire, où elle se repose, mais elle veut que ce soit vrai. Donc il y aura une vraie ferme, des cultures, une sorte d'autonomie. Elle y sera vraiment heureuse. C'est une campagne dans Versailles. Donc c'est un monde rêvé, préservé.
Enfin préservé jusqu'à la Révolution française.
Oui, hein. c'est sûr, évidemment. Et c'est même au hameau de la reine que Marie-Antoinette apprendra le début des journées d'octobre avant de fuir définitivement Versailles pour les Tuileries. Cette restauration, vous l'aurez compris, est une pure merveille, a duré 3 ans grâce à Dior, qui l'a entièrement financée pour 5 millions d'euros. Un petit bijou à découvrir à partir de demain dans le parc du château de Versailles, uniquement sur réservation par petits groupes pour ne rien abîmer.
On vient de passer un moment absolument merveilleux grâce à vous. Merci beaucoup Sophie Orange. Allez, on reparle télévision. Aujourd'hui, une actualité tout à fait particulière. Isabelle Morini-Bosque, alors on retrouve ce soir sur TF1 Koh-Lanta, un programme qui fait beaucoup parler de lui suite à l'arrêt cette nuit du tournage de la prochaine saison, la 19e, je crois.
Oui, pourquoi le tournage a-t-il été interrompu suite, je cite, à un événement survenu entre deux participants qui a conduit la production à interrompre le tournage, les conditions nécessaires à son bon déroulement n'étant pas plus réunies, fermez les guillemets. Après ce communiqué, pour le moins ambigu, j'ai joint l'équipe de production aux îles Fidji qui m'a donné plusieurs précisions. Petit A, qu'il n'y avait pas de blessés. Petit B, que ce n'était pas un événement public lié à l'émission, que ce n'était donc ni à TF1 ni à la prod de commenter. Et petit C, qu'il appartenait aux principaux intéressés de décider s'ils souhaitaient communiquer et sous quelle forme. Ce qui est déjà sûr, c'est qu'ils ont eu un comportement inapproprié. On commence de plus en plus à parler d'attouchement sexuel, voire d'agression sexuelle. Donc comportement inapproprié par rapport à la charte de ce programme familial suivi par plus de 50% des 4-14. Ce qui est sûr aussi, c'est que suspension ou suppression, c'est la fin fidjienne pour l'équipe d'Anonyme de cette future deuxième saison. Et ça, c'est irrévocable.
Alors, face à Koh-Lanta, on a ce soir sur la 3 une spéciale consacrée aux imitateurs.
Oui, qui sont des sportifs de haut niveau de la voix. J'adore cette spéciale que j'aurais adoré vous décrire en intégralité. Vous l'échappez belle. Vous faire par exemple entendre Véronique Dicker et Céline Dion imitant Mireille Mathieu, qui reste malgré tout inimitable. C'est formidable. Cela étant dit, respectons la chronologie en écoutant d'abord Henri Tizot, premier imitateur officiel, celui du général de Gaulle. Il était parfois chahuté.
Tout le monde veut parier sur la France.
Et ta sœur ?
Ma sœur, elle est au Panthéon. Elle prie le bon Dieu que tu sois moins con.
Vous n'avez pas voilà. Les nouvelles à prendre.
Et à votre avis, là, qui imite Jacques Brel ?
Ça, avez-vous gagné des sous à la mode ? À la mode, savez-vous gagner des sous ?
C'est bien, hein ?
Eh
bien, c'est Jacques Martin, qui est un prodigieux imitateur. On réécoute Patrick Sébastien, très poétique, Didier Gustin, que j'adore, ou tiens Claude Véga, le seul à imiter surtout des femmes comme la bébé.
Un coup de soleil sur le nez m'oblige à rester caché.
Il est extraordinaire dans son imitation de Barbara, parce qu'on lui ressemblait.
Formidable. Et j'adorais Claude Véga. Et puis, bien sûr, qui dit imitation dit Thierry Luron. Le duo qu'il forme avec Bernard Mabille est absolument formidable. Et puis, qui est omniprésente dans le doc ? Eh bien, évidemment, Laurent Gérard, prodigieux, là, en pleine réconciliation avec Johnny.
Bonjour, c'est Johnny. Je ne crains personne. J'ai chanté au Grand Stade de France de vos impôts. À Saint-Denis, je reviens de Vegas, j'ai chanté à Vegas. Moi, je ne suis pas comme Jean Ferrat qui chante Aragon.
Il a été méchant avec moi.
Tu sais, c'était de la tendresse.
C'était avant de me connaître.
C'était avant de te connaître. C'est vrai que ça m'embêtait.
Quand Michel me disait, tu fais de la pêche,
il faut toujours que tu te foutes de la gueule de quelqu'un.
Ben bah oui, c'est mon métier. Oui.
Il est payé pour ça aussi. Hein.
Et c'est voilà, et on termine par cet extraordinaire one-man showman qui est Michael Gregorio.
Yeah.
chanson, vous allez écouter, c'est la chanson qui a choisi aussi la finaliste de The Voice qu'on va retrouver demain sur TF1. Elle a 17 ans, elle s'appelle Maëlle. C'est la seule femme en finale. Mon chouchou, c'est tout de même Raffi Ertaux, 16 ans, ancien de la France, un incroyable talent. Mais pour moi, celui qui aura marqué la saison, c'est Frédéric Lombois qui est parti la semaine dernière en demi-finale, qui est un homme formidable. Et alors, je suis très contente parce que des producteurs veulent le faire tourner pour le cinéma de nouveau. Et j'en suis très heureuse.
Bon, écoutez, voilà, je crois que si Isabelle Morini-Box est heureuse, nous, on est heureux aussi. Et on va se retrouver dans un instant pour dire bonjour à Julien Courbet. On est en train d'écouter notre chanson à l'Eurovision.
Et on dit merci.
Oui, et on était très bien classés ce matin chez les bookmakers. Merci. Troisième. C'est ce que Laurent Marsic nous a expliqué tout à l'heure. Depuis Lisbonne, on va se disputer la finale que nous découvrirons demain soir, je vous le rappelle, sur France 2. Merci à toute l'équipe et bienvenue à Julien Courbet.
Oui, c'est Julien, tout à fait, nous sommes là pour vous aider. Enfin, je parle pas de vous, la rédaction, je parle des auditeurs, mais si vous-même à la rédaction, vous avez des problèmes, vous montez, on est au même étage, en haut, en bas, enfin, on vous croisera et on fera tout pour vous aider.